If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, on est sur le rendez-vous tech et on va vous parler d'Apple, mais de manière beaucoup plus sérieuse et analytique qu'on ne l'a fait il y a quelques jours. Et on a aussi des news de Google, de Samsung et de plein d'autres choses comme des décisions politiques intéressantes. C'est tout de suite et on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 477, nous sommes en septembre 2022, à quelques jours à peine de mon anniversaire, et je remercie pour leur participation à l'émission, au financement de l'émission, je remercie Mr. Psycho Ghost, qui a l'air vraiment, vraiment énervé, hein, c'est quelqu'un de vraiment sérieux. Ben Good, Baptiste, qui a rejoint le Patreon, les Patriotes, les nouveaux Patriotes qu'on aime d'amour, et Obeuf, le producteur de cet épisode, qui a la chance ou la malchance de tomber sur un épisode où on va beaucoup parler d'Apple. C'est le moment où 80% des auditeurs sont contents d'avoir des informations, des analyses, puis 20% sont grognons parce que on parle toujours d'Apple, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais j'espère que nous allons apporter ce petit supplément d'analyse et de sérieux qui va faire que vous allez en tirer quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément un client de la marque. À noter, avant qu'on se lance dans les discussions et la présentation de mes invités de prestige et de marque, que pour l'after show aujourd'hui, la partie de l'émission qui vient après l'émission, qui est réservée aux auditeurs qui soutiennent justement sur Patreon, on va peut-être faire une petite discussion sur la manière dont les gens, les auditeurs, gèrent leur renouvellement de matériel à l'heure de l'urgence écologique, parce que les choses ont beaucoup changé depuis qu'on a lancé l'émission, et je me demande comment les auditeurs y pensent, comment ils y réfléchissent. C'est un sujet qu'on va peut-être évoquer dans l'émission elle-même, mais on aura cette petite discussion en bonus pour les Patriotes. Et je peux maintenant présenter mes invités. D'une part, l'inénarrable Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ? C'est ce qui m'est venu.
Ça va, hein, ça va formidable. Ça fait longtemps qu'on ne s'est parlé. Ça fait
mais c'est vrai.
Presque 3 mois, mais oui.
L'été a été long, Cédric, sans toi.
Mais il a été formidable, donc on ne va pas s'en plaindre. Moi, j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas jusque-là, l'Amérique du Sud, enfin, des trucs, voilà. Mais tu m'as manqué, voilà.
Oh. J'attendais cette partie.
Je jouais avec mon micro tout seul dans mon coin en disant Alors que j'ai aussi des podcasts moi à faire, mais bon.
On a aussi, encore une fois, réunis, même s'ils ne travaillent plus ensemble, ils sont réunis dans le rendez-vous tech et ça me fait incroyablement plaisir. Elsa Bimbaron, comment vas-tu, Elsa?
Écoute, moi, je n'ai pas découvert de nouveaux pays, parce que j'étais en Italie, mais j'ai découvert de nouvelles façons de conduire, parce qu'à chaque fois, c'est une redécouverte.
Voilà. Ah mais parce que j'ai fait On se raconte nos vies, donc j'étais aussi en Italie après. Bon, c'était plus
vous
reposant parce que si la conduite en Italie te plaît pas, alors va pas conduire en Colombie. Voilà, j'ai pas.
Oui, mais j'ai eu un petit moment assez drôle avec mon ado de 14 ans derrière qui tout à coup me fait mais maman, il passe le permis dans ce pays.
Alors. Oui.
Voilà.
Oui, mon cher.
Chers amis italiens qui nous écoutez pour apprendre le français.
Mais je vous inquiétez pas, mon mari est italien.
Ah oui. D'accord, ok, alors voilà. C'est ça.
Mais exactement. Attends, mais c'est important. Voilà. De quelle région ?
D'Umbria. Umbrie.
Ah, ça va.
Pérou.
Très bien.
Ça va.
J'ai une autre. Je veux pas qu'on parte sur des tangentes pendant toute l'émission, mais
non, est-ce que jamais. Tu y allais ? Ça n'arrive jamais.
Est-ce que tu y allais avec ta Tesla ? Colombie, peut-être pas. Quand
en Colombie, non. Et d'ailleurs, j'en ai pas vu la queue d'une. Je crois que je regardais, parce que moi, je regardais même plus généralement les voitures électriques. Alors, il faut dire que la Colombie est un pays producteur de pétrole, donc je me souviens plus, mais l'essence était quand même à vraiment vil prix, quoi. Et donc, j'ai vu très peu de voitures électriques. Non, je suis parti en Italie avec ma Tesla et c'était.
Et t'as réussi à te brancher parce qu'on n'a pas vu, nous, beaucoup de voitures électriques, ni beaucoup de prises, surtout pour voitures électriques.
Alors, si, moi j'ai. Mais c'est parce que je suis allé dans un hôtel très cher.
Mais... Parce que Cédric est un bourgeois, voyez-vous, messieurs.
Mais exactement. J'habite à l'ouest de Paris, enfin tout ça, quoi. Et non, c'est-à-dire que maintenant, si tu vas sur Booking, avant sur Booking, tu vois, tu pouvais dire mon hôtel, je préférais qu'il y ait une piscine ou un machin, nanana. Et ben là, tu peux cocher, j'aurai une prise pour me recharger. Et, en fait, et c'est sympa parce que pour l'instant,
Elon Musk.
C'est devenu assez important pour que les hôtels s'en inquiètent, mais c'est pas encore assez généralisé pour que ce soit la guerre, tu vois, ou pour que l'hôtel se dise bon, alors faut que je mette 14 prises, enfin, tu vois, bon, bref. Et du coup, c'était sympathique. Et alors, curieusement, j'ai vu très peu de Tesla là-bas, alors qu'il y a plein de superchargeurs, donc vraiment, c'était chouette comme tout. Et voilà, moi, je vous raconte pas ma vie, mais
très bien.
Donc, de la frontière italienne et du Mont Blanc à chez moi, je recharge une fois, donc c'est cool.
C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, l'été, en gros, l'information à retenir de toute cette conversation, c'est que je t'ai beaucoup manqué cet été.
Très bien. Ouais, merci. Tout à fait. Et que j'ai regardé comment, pour venir chez toi quand même, il y a un paquet d'étapes.
Oui. Mais il y a des chargeurs quand même.
Ah hein, oui, ça manque pas entre ici et chez toi. Alors, entre ici et la fin, rigolade.
Donc, de quoi va-t-on parler si j'arrive à mettre cette mouche ? Sérieux ? Mais c'est pas possible. Bon, pardon. J'espère que la mouche va pas perturber cette émission plus qu'elle ne l'a déjà fait. C'est déjà suffisamment pénible. Et le moment que vous redoutiez ou que vous attendiez est arrivé. On a fait un petit after keynote avec Guillaume de Nowtech et on en a mis l'audio dans le flux de l'émission. Si vous l'avez raté, c'était jeudi dernier. Et ça, c'était 2 heures à chaud. Donc aujourd'hui, on va faire les choses beaucoup plus...
Tu m'as fait peur d'ailleurs, hein, parce que j'ai cru que j'avais raté l'émission quand j'ai vu arriver un nouvel épisode. J'ai oublié.
J'ai raté l'épisode où on parle de mon ami Tim Cook. Tu étais catastrophé, ben voilà. Je le comprends.
Good morning.
Mais du coup, ça, c'était les réactions à chaud. Pour certains, c'est peut-être un peu long quand même, plus de 2 heures de discussion sur tout ça. Donc là, on va... résumer, analyser et puis surtout essayer de vous donner des enseignements intéressants sur toutes ces annonces et un petit peu ce qu'il y a autour, un petit peu de contexte. Et donc, on va se lancer tout de suite avec l'info de la semaine, la conférence Apple que nous attendons chaque année, que certains d'entre nous attendent chaque année, où ils annoncent l'iPhone nouveau et a eu lieu la semaine dernière. Et il y a eu, alors, on va faire très rapidement, Apple Watch Série 8, Apple Watch SE 2e génération, Apple Watch Ultra, AirPods Pro 2, iPhone 14 et 14 Plus, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Donc en gros, c'était Apple Watch et iPhone, les stars du truc, pas d'iPad, pas de service, pas de Mac, tout ça. C'était vraiment le focus sur l'iPhone. Et la conférence était, comme souvent, très bien produite, pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que, moi je vais commencer avec une première remarque, c'est que en regardant la conférence, je me suis rendu compte à quel point Apple a réussi à complètement effacer toutes sortes de commentaires en direct de la conférence. C'est-à-dire qu'à force d'envoyer des DMCA, des strikes sur YouTube, sur Twitch, etc., et ben plus personne ne commente la conférence par-dessus. Et du coup, il y a des gens qui, comme Cédric Deluca, assez ingénieusement, font des pages spéciales pour avoir les deux embeds, donc de la conférence et de ses commentaires d'un côté. Mais le fait est que dans 90% des cas, là où il y a encore quelques années, on pouvait avoir un commentaire parfois un petit peu piquant, on va dire, de ce qui était annoncé et montré par les marques, et ben aujourd'hui, on n'a plus que la conférence qui est en fait, on ne va pas se mentir, c'est une immense publicité de 2 heures qui ne peut absolument pas être commentée en direct. Alors oui, on peut aller écouter les comptes rendus après, etc., mais la plupart des gens ne le font pas. Donc, on est en plein dans le reality distortion field d'Apple et on n'a pas de possibilité d'avoir une autre, une compréhension de ce qui est en train d'être dit au moment où c'est en train d'être dit. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.
Alors, d'abord, c'est possible. Hein. Non, mais d'abord, c'est pas impossible. Mes camarades dont fait le Mac l'ont fait, mais c'est vrai que Apple essaye d'y assortir des règles. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, on demande de pas juste retransmettre la conf. Mais si tu as l'image incrustée dans un coin, si tu évites d'en jouer trop le son, etc., etc., non, là, ils font... Enfin bon. Donc, c'est pas impossible.
Bah, tu peux pas le commenter comme tu commentes un match de foot, comme on le faisait à l'époque.
Idéalement, l'image doit être sur toi, avec, tu peux avoir l'image de la keynote incrustée dans un coin, etc., etc.
Mais on sait bien que c'est pas comme ça que les gens qui veulent consommer la keynote veulent la consommer. Ils veulent avoir l'image en grand.
À ce moment-là, ils vont consommer la keynote. Mais non, tu es en train de dire qu'Apple a raison.
Bah, je suis en train de dire que si Apple est dans son droit.
Tu vas sur la keynote.
Apple est évidemment dans son droit de faire ça. Mais l'effet pervers, c'est aussi une chose qu'il recherche, je pense. C'est que là où on pouvait avoir à regarder la keynote avec une analyse en même temps pour mettre en perspective ou en contexte ce qu'ils disent. Eh ben aujourd'hui, on ne peut plus vraiment l'avoir parce que l'expérience de vision d'une keynote comme ça, ben c'est pas celle qu'on veut avoir quand on veut regarder la keynote. Et j'irais même jusqu'à dire que si on est si on a les épaules légales pour se battre contre cette vision d'Apple, je crois, sans être avocat, qu'il y aurait un argument à faire pour dire ben ça a une valeur journalistique de commenter ce qui est en train d'être dit et que donc, légalement / moralement, je ne suis pas convaincu qu'il soit totalement inadmissible de commenter pendant la diffusion. Pardon Elsa, tu allais dire quelque chose, Elsa ?
C'est pas inadmissible, mais alors pour tout dire, moi ça ne me gêne pas trop, parce que deux choses, c'est un exercice qui est très dur à faire bien, donc il y a peu de gens qui font bien le commentaire en direct de ce genre de choses. Et puis, de l'autre côté, finalement, c'est aussi vraiment intéressant de faire des analyses un peu plus à froid. Par exemple, en faisant le détail, je ne sais pas, des choses qu'Apple n'a pas dit, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais enfin, l'un n'empêche pas l'autre.
Oui, bien sûr. Mais
parce
ce que je veux dire,
le fait est que là,
qu'il y ait 1000 chaînes qui fassent 1000 analyses, 1000 hot takes sur la keynote Apple, honnêtement, pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Carrément pas d'accord.
S'il y en a 10 qui le font bien, ça me va, tu vois.
Oui, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Et les gens qui le font sont contraints à un format qui fait que les spectateurs n'ont pas vraiment envie de voir ça. Quand Apple te montre le dernier téléphone avec son super truc marketing super bien fait, ben t'as envie de le voir en plein écran, pas en petite incrustation sur le... Et du coup, l'effet... Alors, quel que soit ce qu'il y a autour, la conséquence, c'est que dans les faits, tu as... la livraison du message marketing d'Apple publicitaire, je force un peu le trait, mais du message marketing d'Apple publicitaire de cette mouche, qui est sans filtre. Et je pense que c'est intéressant à noter, à constater. Voilà, c'est
tout. Ouais. Mais alors, il y a aussi un truc qui est lié au changement de format. C'est-à-dire que depuis le Covid, en gros, il s'est mis à faire des événements virtuels, entre guillemets, à distance, et avec des formats totalement filmés du début à la fin. C'est-à-dire que, tu vois, c'est quelqu'un qui a poussé sur play, la keynote. Il s'est rien passé en direct. Sinon qu'en fait, ils ont fait leur propre truc hybride parce qu'ils ont quand même emmené la presse à Cupertino pour voir la keynote, mais pour arriver à prendre en main les matériels après. Mais du coup, c'est vrai que ce format filmé va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de longueur, tu vois, de passage de relais de l'un à l'autre, etc., qui étaient des bons moments pour faire du commentaire. Du coup, c'est vrai que si tu fais du commentaire, bah, t'es en train de couvrir ce qui est en train d'être dit, donc t'as toujours un coup de retard. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dense qu'avant, pour moi.
Admettons.
Mais après...
Moi, je trouve que c'est l'argument de Cédric, c'est le bon, c'est que c'est devenu le rythme, ils enchaînent quand même assez vite. Bon,
ça passerait
quand
même
sur une petite longueur sur la présentation de l'Apple Watch Series 8, où on a quand même passé pendant 7 minutes sur la santé des femmes.
Ou alors,
à celles qui nous écoutent et qui sont encore jeunes, la méthode Ogino, ça ne marche pas. C'est-à-dire prendre sa température pour éviter de tomber enceinte. Il y a eu des générations de bébés Ogino, pour vous dire si ça fonctionne. Donc, quand même passer un temps de dingue là-dessus.
Ouais.
Pour moi, c'était le moment de la keynote où il aurait quand même fallu commenter.
On t'entend assez mal, Elsa. Si tu peux rapprocher ton micro.
Et pour moi, ça aurait été clairement le moment de la keynote où il aurait fallu mettre un petit commentaire médical en disant à prendre avec des pincettes. Alors, Apple est malin, hein, parce qu'ils ne disent pas que cet aspect-là, c'était... pour éviter de tomber enceinte, c'est pour tomber enceinte plus facilement au meilleur moment. Enfin, si la prise de température, ça marchait, c'est pareil, ça se saurait.
Ouais. Les anglo-saxons appelaient ça, ils appelaient pas ça la méthode Ogino, ils appelaient ça the safe method. Et je me souviens d'un bouquin qui disait on appelle ça the safe method parce que it's pretty safe that you're gonna get pregnant.
voilà.
Et en plus, c'est bon, donc, on va y venir dans un instant. Mais
sur le commentaire, c'est vrai que c'est devenu compliqué de les faire en même temps parce que soit tu te relais en même temps ce qui est dit pendant la keynote qui est densifié et en même temps commenter ce qui est dit en ayant
super. Elsa, je suis désolé, mais on t'entend vraiment très mal, hein, Elsa. Ah bon. Je ne sais pas quel téléphone tu utilises, mais on a du mal à te comprendre en fait. Si tu utilises
ça marchait mieux tout à l'heure.
Ouais, ça marchait mieux tout à l'heure.
Alors là, j'ai enlevé mes écouteurs.
Parfait, mais c'est merveilleux.
C'est magnifique.
Merveilleux.
Donc tu disais, pardon.
J'utilise un iPhone.
Et ben voilà.
Ça te tourne mal. En fait, quand j'ai commencé à dire du mal d'Apple, le truc c'est a dit, ça. Bah.
Ils t'ont coupé.
Tu causes mal. Je coupe.
D'accord, bon, bah écoutez.
Artificielle, Voguette.
Donc, vas-y, termine, et puis on va parler. Bah,
je disais forcément un truc intelligent, mais j'ai oublié ce que c'était.
Donc, les questions de température.
C'est vrai que ça s'enchaîne et que ça s'est quand même beaucoup, beaucoup densifié. Il faut 15 personnes qui commentent la keynote et malheureusement, il y a de moins en moins de ressources dans les rédactions classiques. Et soit il faut prendre le parti de dire, bah, là, on fait les annonces et demain, on revient calmement et on fait les commentaires.
Bon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment pas d'accord avec vous, que ce soit de qualité ou pas, on devrait avoir la possibilité, je pense.
Ah oui, je pense qu'il faudrait avoir la possibilité, mais après, c'est aussi compliqué.
Ouais. Du coup, Apple a fait sa conférence. On a aussi, entre parenthèses, la version 16 d'iOS qui est disponible depuis hier. Moi, j'ai mis à jour. Hein, j'ai scanné mes oreilles, tout ça. C'était très difficile à faire et ça n'a pas changé l'audio spatial. Mais c'est fait. J'ai mis mes enfants sur tous mes écrans de verrouillage, etc. Mais pour ce qui est des annonces, donc on avait, tu l'as mentionné, la série 8, Apple Watch série 8. Il y a eu plusieurs watches qui ont été présentées. La série 8 a du coup un processeur qui est assez comparable, il semble, à celui des deux générations précédentes. Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de plus fort dans les processeurs, mais le processeur n'évolue pas tellement. Et puis surtout, les deux choses qui sont mises en avant, les deux nouveautés, c'est la détection d'accidents de voiture, c'est-à-dire que votre montre pourra, grâce à de nouveaux capteurs, avoir la possibilité de détecter quand vous êtes dans un accident de voiture, de la même manière qu'elle peut détecter les chutes, jusqu'à maintenant, depuis la série 4, je crois, peut détecter les chutes. Mmh. Ben là, elle peut détecter les accidents de voiture et vous prévenir que vous êtes dans un accident, que vous avez été dans un accident, pas forcément, mais prévenir les autorités si vous n'arrêtez pas l'appel qui est déclenché par la montre. Puis l'autre chose, c'est, comme tu le disais, Elsa, la température, le capteur de température, qui n'a pas visiblement été utilisé pour détecter une maladie, mais simplement pour détecter effectivement l'ovulation a posteriori, c'est-à-dire que la montre va vous dire, a priori, vu les variations de votre température, parce qu'elle ne capte pas la température elle-même, mais les variations de température, eh bien, vous étiez, madame, en train d'ovuler hier. Donc, c'est vraiment a posteriori. Donc, oui, c'est plus vendu comme un outil pour essayer de réguler certaines choses et de savoir certaines choses plus qu'un outil de contraception. L'Apple Watch SE seconde génération a également un processeur S8 comme l'Apple Watch série 8, mais ce processeur est un petit peu ancien. Et elle a de notable le fait qu'elle détecte aussi les accidents, ce qui fait que, en plus du fait qu'elle détecte les chutes comme l'Apple Watch SE première génération, eh bien, elle détecte aujourd'hui les chutes qui s'adressaient, on va dire, à une population plus âgée. Les accidents, ça s'adresse à un petit peu tout le monde. Et du coup, on a l'Apple Watch de sécurité un peu moins cher qu'on va configurer sur notre propre téléphone pour un membre de la famille, que ce soit une personne un peu plus âgée ou un enfant, par exemple. Et du coup, on a un petit peu, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a l'esprit tranquille, mais c'est peut-être le but recherché par Apple, c'est la première Apple Watch ou l'Apple Watch des personnes qui n'ont pas forcément d'autres accessoires, qui va un peu nous tranquilliser, nous permettre d'être en communication facilement avec quelqu'un et puis d'avoir une sorte d'ajout de sécurité sur ces personnes. Et enfin, et je vais m'arrêter là pour ce segment, l'Apple Watch Ultra, qui est du coup une nouvelle catégorie d'Apple Watch et qui est un produit assez intéressant et assez différent pour Apple, je trouve, parce que c'est une montre qui est vraiment destinée aux explorateurs de tous bords, c'est-à-dire des alpinistes, des plongeurs, des gens qui vont faire du trekking dans le désert. Et c'est une montre qui est vraiment destinée à ce public-là et pas à un public large. C'est-à-dire que souvent, Apple fait des produits qui sont destinés à un public aussi large que possible, même s'ils n'adressent pas tous les besoins de tout le monde. Là, ils disent clairement pour la première fois. Alors, ils ont certainement fait leur étude de marché, ils ont vu qu'il y a un marché, hein, ça, j'en doute pas. D'ailleurs, Garmin et d'autres constructeurs faisaient des outils de ce type-là. Mais ils disent, c'est pour ce type d'utilisation. Si vous ne faites pas de la plongée à 40 mètres, l'Apple Watch Ultra, elle ne vous servira à rien. Merci d'ailleurs à Valal qui nous confirme que c'est ce type de plongée. Donc, c'est plutôt de la plongée, on va dire, pas professionnelle, mais amateur passionné. La plongée à 40 mètres, c'est ce genre de choses. Donc voilà pour les trois produits dans la catégorie Watch. Je me tais et je vous laisse me donner vos impressions sur ces produits-là. Elsa,
je vais juste prendre la main sur l'Apple Watch Ultra parce que c'était le truc le plus intéressant, en fait. Parce que c'était la seule vraie nouveauté, c'était pas juste une mise à jour. Je te trouve très charitable sur le fait que cette montre est faite uniquement pour les gens qui font de la plongée, du machin. Je te rappelle que, tu vois, il n'y a pas que des pilotes et des explorateurs et des gens qui font de la voile qui achètent des Rolex, hein, c'est pas... je pense que ça va avoir un public beaucoup plus large que ça. D'abord parce que c'est la plus chère. Et être la plus chère, c'est déjà une qualité en termes de marketing. Et puis parce qu'elle est plus grosse, elle est machin. Enfin, tu vois, tout à coup, c'est une nouvelle gamme.
Je ne l'ai pas expliqué, mais elle est plus grosse, plus résistante. Elle a des bracelets particuliers qui s'adaptent genre au-dessus d'une combinaison de plongée. Elle a un bouton supplémentaire customisable. On peut faire passer l'affichage en rouge pour le voir dans des conditions de visibilité réduite, etc., etc., ce genre de choses.
Ouais. Moi, je pense surtout qu'avec cette montre, Apple arrive sur un marché sur lequel ils n'étaient pas du tout. C'est-à-dire le marché des sports extrêmes, c'est le marché de tout ce qui est sport outdoor. Et tu fais trempette avec ton Apple Watch, tu fais éventuellement un petit peu de natation, tu ne fais pas beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire tu ne prends pas forcément le risque de monter sur une planche ou de surf ou de n'importe quoi avec une Apple Watch parce que, oups, tu ne vas pas dans les rouleaux parce que ça va la cramer. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup quand même de limites à l'utilisation. Or, c'est de plus en plus pratiqué, les sports outdoor, ne serait-ce que d'aller faire un petit trail, tu prends le risque de tomber, tu sais que tu vas casser la montre. Mm-hmm. Je parle d'expérience. ça c'est fait. Alors que la Garmin, pour ne pas les citer non plus, ça c'était un peu plus solide. Tu peux faire, ils se positionnent clairement face à Garmin avec ça. Et au contraire, ils étendent leur champ le public auquel ils peuvent s'adresser. Et avec ça, ils te montrent le truc super fun, on va faire de la plongée, du parachute, ce que tu veux, mais ils s'adressent aussi à une population éventuellement de pros qui sont dans des conditions un peu plus extrêmes où il faut des produits solides. En fait, ils vont sur le durci, c'est un peu moins glamour. Alors, ouais. Apple, ils le vendent glamour, mais ils arrivent quand même considérablement, du coup, à élargir leur audience avec un produit qui est beaucoup plus solide.
D'accord.
Pour moi, l'intérêt d'une montre plus grande, c'est aussi qu'elle permet d'embarquer plus de batterie. Que tu le disais, si tu pars faire, je sais pas, tu vois, l'ultra trail du Mont Blanc, le problème de ton Apple Watch d'avant, c'est qu'elle avait déjà pas assez de batterie pour aller au bout. Donc là, ils promettent 36 heures de batterie et 60 heures en mode économe. Ce qui est, à mon avis, l'une des plus grosses avancées. Il y a plein de gens qui vont se dire « Ouais, je vais lâcher deux fois le prix, mais au moins, je ne serai pas forcé de la recharger peut-être tous les soirs, à voir. »
D'accord.
Bon,
mais... Il y a entre parenthèses un mode...
Et si tu fais un trail aux États-Unis et que tu te perds dans la pampa, tu seras retrouvé par satellite. Pour le moment,
voilà.
Ce ne sera que US et Canada.
C'est vrai que j'ai oublié de mentionner cette nouveauté aussi, qui est la connexion par satellite quand on n'a pas de connexion cellulaire. Je me souviens plus, c'est que l'Apple Watch ou la série 8 le fait aussi? C'est que la Ultra, hein.
Oui, il y a du roaming maintenant, ce qui était un vrai souci d'ailleurs sur la série 8, mais je crois que c'est uniquement sur l'Ultra qu'elle c'est à vérifier. Ouais.
C'est à vérifier.
Mais qu'est-ce qu'on dit comme bêtise? C'est sur le téléphone. C'est pas sur la montre. C'est uniquement sur le téléphone. Donc, la montre, elle a pas l'antenne qui peut atteindre le satellite, mais le
téléphone. Oui, mais si t'as acheté ça, t'as acheté aussi le téléphone qui va avec.
Bien sûr. Mais moi, je suis surpris du coup. Mais ok, peut-être que effectivement, je me trompe. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment pas pour le grand public.
Non, mais le marché de l'outdoor, c'est un truc qui a explosé, mais complètement sur tous les segments, hein, que ça soit la chaussure de course, la marche. Tu vois, il y a des produits qui arrivent qui sont de plus en plus spécifiques. Les gens dépensent des fortunes là-dedans. Je ne te parle même pas des cyclistes, ma spécialité, qui est le sportif qui dépense le plus d'argent pour s'équiper. Mais les gens investissent énormément dans un équipement sportif, de plus en plus, notamment sur tous les sports en extérieur. Et c'est complètement logique et malin de la part d'Apple de se positionner sur un segment sur lequel ils étaient trop peu, quoi.
Ce qui est sûr, c'est que c'est le genre de sport qu'on fait par passion. Et quand on fait ce genre de truc par passion, un outil comme une montre à 800 ou 1000 euros, ça fait partie complètement des sommes qu'on peut dépenser pour ce genre de choses.
Sachant que ton tapis de sol qui va peser que 25 grammes, tu l'auras payé déjà 250 balles, t'es plus à frais.
Je sens que madame parle d'expérience.
Là aussi.
Je sens que madame est agacée.
Madame, elle voit passer les notes de CB. Chérie, qu'est-ce que c'est? Ah ben non, ça c'est juste le nouveau tapis.
Ça c'est l'attente.
Ah non, mais madame, ça parce qu'il fallait que je change le dérailleur. Donc tu comprends.
C'est ça, oui.
Au vieux campeur, donc...
Et du coup, une autre fonctionnalité qu'on n'a pas mentionnée sur la série 8 et sur la Ultra, c'est le mode low power, donc le mode faible consommation, qui supprime l'affichage toujours allumé et la détection d'exercice ou ce genre de choses, qui réussit à, on va dire, mettre 150% de batterie, donc entre 150 et 200%. Donc, au lieu d'une journée complète sur l'Apple Watch série 8, on aura 36 heures. Et sur la Ultra, au lieu de 36 heures, on en aura 60. Donc voilà, ça peut être effectivement assez utile pour certains. Donc ça, c'était les Apple Watch. À côté de tout ce qu'on a dit et effectivement des nouveautés de la Ultra, moi, j'hésitais à en acheter une. J'ai une série 4 aujourd'hui. Et du coup, je suis allé sur Twitter et j'ai dit, bon, au-delà de l'affichage toujours allumé qui n'est pas présent sur la série 4, et de l'écran un tout petit peu plus grand. Là encore, c'était un changement après la série 4. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vous ont été très utiles? J'ai demandé à Twitter. Les retours ont quand même été assez clairs. C'était non, non, non. C'est bon, l'affichage, effectivement, c'est pratique. Certains disent qu'il y a un peu plus de batterie. OK, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de fonctionnalité, que ce soit le capteur d'oxygène, enfin l'oxygénation dans le sang, ce genre de choses. Bah, les gens n'ont pas l'air hyper... on va dire hyper convaincu par les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch après la série 4. Donc moi, finalement, je vais peut-être pas en prendre une et on verra l'année prochaine s'il y a des choses vraiment intéressantes.
Alors moi, je sais pas si sur la détection d'accidents de voiture, si on peut préciser quelque chose, c'est que aujourd'hui, enfin dans les voitures récentes, alors je crois que c'est récent depuis 2013 même, mais faut vérifier ça. Ça existe, c'est embarqué par défaut l'appel d'urgence en cas d'accident dans les véhicules.
Ça marche pas pareil, parce que c'est souvent basé, par exemple, sur le déploiement des airbags. En gros, la voiture déploie les airbags, elle lance un appel d'urgence.
Oui, alors le choc qui va déclencher le choc de ton Apple Watch, c'est quoi?
Ah, mais c'est l'accéléromètre.
Alors, il y a deux choses. Il y a l'accéléromètre.
Tu allais très vite et tu t'es arrêté, rapidement.
Ça va être a priori un accident. Je pense que dans les deux cas, on peut dire que...
Je pense que sur l'accident de voiture, bof. En revanche, pour les deux roues, motorisées ou pas, ouais, ça, c'est un vrai plus. Honnêtement, sur l'accident de voiture, quand on est européen avec les normes européennes et le fait que ça existe, et ça existe aussi aux États-Unis, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est peut-être moins gore de montrer un mannequin dans un crash test qu'un cycliste écrasé sur la route, je ne sais pas. Mais voilà.
Disons qu'il y a un petit peu, sans doute, de marketing là aussi, qui est de se dire, bon, bah, et on va voir que c'est le cas avec les téléphones également, j'ai la montre, je suis tranquille. Tu vois, c'est comme une assurance. J'espère ne pas en avoir besoin. C'est ce que disait Apple d'ailleurs. Et certains ont dit, oh, c'était hyper anxiogène, la conférence d'Apple. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils essayent de montrer qu'ils vont vous protéger. Mais c'est vous vendre, on va dire, 10% de sécurité effective et 90% de sentiment de sécurité. Enfin, de la même manière qu'une assurance va vous vendre de la sécurité aussi. Mais c'est le genre de choses où on se dit, bon, si je tombe, eh ben, je peux être secouru.
Ramasser
ou... si j'ai un accident, je peux... Et
ramasser,
par exemple...
c'est peut-être pas le meilleur mot, mais...
Quoi ? Si...
On disait ramasser. Ramasser, peut-être pas le meilleur.
si, par exemple, je pense à mes enfants, à un moment, on en parlait la semaine dernière, à un moment, entre le rien et le téléphone, il y aura peut-être une montre qui va passer par là. Je ne veux pas me dire, attends, est-ce que la voiture dans laquelle il sera, il y aura un truc pour appeler les secours en cas d'accident, machin. Je me dis, non, il a sa montre, ça fait accéléromètre et pression barométrique pour voir quand un airbag se déclenche. S'il y a un accident, eh ben, ça va prévenir les autorités, ça va me prévenir, je peux le contacter. J'ai l'esprit un peu plus tranquille, moi, qui suis très stressé, ça peut me parler. Et du coup, effectivement, on va pouvoir dire « Ah, mais dans toutes les voitures, il y a déjà ça, dans tout... » Et c'est peut-être vrai, mais le sentiment de tranquillité est peut-être plus important que ce genre de considération, je crois. Bon, clairement, mon argument a fait mouche, puisque personne ne me...
Non, j'étais en train de penser qu'en fait, la seule montre qui résisterait à un enfant, c'est l'Apple Watch Ultra, en fait.
Très bien, voilà, c'est ce qu'il faudra faire pour mon fils de 5 ans. Et t'as pas totalement
voilà.
Tort.
Non, après, il faut expliquer à un ado que tu sais, si tu mets cette montre, maman pourra savoir tout le temps où tu es, elle sera rassurée. Donc là, je pense que l'ado, il te la rend en faisant sympa pour les
non,
cadeaux.
Non, mais l'ado, il a son téléphone déjà. L'ado, c'est plus la montre. Tu vois.
Parce
moi,
que
c'est
tu crois que tu arrives à suivre ton ado avec un téléphone.
Non, mais je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas à l'ado qu'on va expliquer ces choses-là. Là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est pour le plus petit, mais bon, enfin, on verra quand j'aurai un ado.
J'ai benchmarké tout ça. Hein, j'aimerais qu'Apple fasse des gros efforts sur son contrôle parental, qui pour l'instant est un truc qui honnêtement est un peu ni fait ni à faire.
D'ici à ce que moi j'en ai besoin,
ils ont mis dans le. C'est d'une complication sans fin, etc. Et pour comparaison, je suis allé voir ce que fait Google. Et ce que fait Google est juste magnifique. Donc, mon fils a eu un pixel comme ça, mais alors lui, il était suivi au mètre près, tu vois. C'est et avec un truc verrouillé, c'était la Corée du Nord, son smartphone. c'était Pyongyang. Et il pouvait absolument rien faire, il avait accès à 3 sites. Enfin, c'était un Play Store. Non, pas de Play Store pour toi, mon chéri. 2 jeux, une calculatrice. Enfin, vraiment, c'était.
Et ça marchait. Il ne l'a pas balancé dans la tête en disant bon, mais écoute, papa, maintenant ça suffit.
Bah non, parce qu'il a 9 ans. Donc,
mais voilà, non, mais ça change quand on parle des ados.
Mais non, mais c'est juste pour pouvoir appeler en sortant de l'école. Enfin, voilà, mais
exactement.
Il ne pouvait vraiment rien faire d'autre. Et alors, par contre, le suivi,
elle a acheté un 3310, c'est plus simple.
Oui, alors c'est ce qu'on a fait après. Mais, mais du coup, la géoloc est beaucoup moins bien. Il a fallu que je trouve d'autres solutions pour la géoloc. Mais il me demande parfois, il m'a encore demandé, il y a papa, mais en fait, tu sais où je suis ? Oui. Ah d'accord. Et là, t'as rien vu aujourd'hui ?
Bah, c'est une question qui est vraiment intéressante. Moi, on en parlait avec ma femme. Et on n'y est pas encore, hein. On a encore 1, 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, mais...
Ça reviendra.
Mais je pense que nous, ce qu'on lui dira et ce qu'on lui promettra, c'est on ne va pas regarder où tu es, c'est juste pour le cas où on en a besoin, pour le cas où on en a besoin, on peut savoir, mais il y a une certaine dose de confiance qui est nécessaire et lui dire, on ne regardera pas, mais on peut savoir effectivement si tu te perds. Voir comment ça passe.
Comme dirait Patrick Bruel, rendez-vous dans 10 ans. Hein.
Oui,
ça.
Oui. Bah.
Vous savez, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, c'est...
Bon, les AirPods Pro 2 ont un nouveau processeur, le processeur H2, qui leur permet d'avoir une meilleure qualité de son, un niveau de réduction de bruit adaptatif qui va réduire plus les bruits plus forts et réduire moins les bruits moins forts, si vous le souhaitez. Pardon, c'est le mode transparence qui vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous, même quand vous avez les écouteurs dans les oreilles, qui marchent déjà pas trop mal. Et puis la seule autre nouveauté, on va dire, c'est le fait qu'il y ait une petite tige sur les AirPods qui est tactile, qui va vous permettre de monter et descendre le son sans avoir à supplier Siri de le faire pour vous. Et puis, sur le boîtier, il y a un haut-parleur qui vous permet de le repérer si vous l'avez perdu, qui va émettre un petit son quand la charge est complète de l'appareil, si vous le souhaitez. Et puis, qui permet aussi d'être chargé grâce à grâce au chargeur de l'Apple Watch. Donc ça, c'est relativement malin. Si on a un chargeur d'Apple Watch et des AirPods Pro, eh ben, on peut charger les deux d'un coup. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur les AirPods Pro. Je crois qu'il y a peu de nouveautés. On attendra de voir si le son est véritablement de meilleure qualité avec de nouveaux codecs, plus haute capacité pour faire passer un son de meilleure qualité ou pas. À voir avec les premiers tests, mais à ce stade, on n'en sait pas grand chose. Moi, je suis un ultra fanatique des AirPods. Je les ai tout le temps sur moi, presque tout le temps dans les oreilles. Et là, je me suis dit, bah, je vais attendre de voir s'il y a une amélioration sensible pour la qualité du son quand même. Je n'ai pas l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais à froid comme ça, de vue de loin, j'ai l'impression que ce n'est pas trop votre truc, les AirPods, tous les deux.
Ah, si, si. Moi, alors, moi, le problème que j'ai, c'est le prix. Ce n'est pas tant parce que, tu vois, j'ai envie de dire, le prix s'oublie, la qualité reste. Sauf que quand même, c'est des trucs qui sont destinés à être perdus. à peu près systématiquement, voilà.
Il y a Apple qui t'a mis les retrouver grâce à Find My.
Oui, alors très bien, mais ça marche moins bien quand ça tombe sous la table et d'un coup tu marches dessus.
Ah oui, ça oui.
Tu veux, j'ai eu combien d'AirPods, je sais même plus, et ben j'en ai pas une paire en état de marche là à l'heure où je te parle. Donc,
moi, j'ai des AirPods vieille génération, je les ai jamais perdus. Tu n'es pas très soigneux.
Moi, j'ai jamais perdu les miens non plus, Cédric.
J'ai jamais perdu, vraiment.
Ouais, bon.
L'erreur se situe dans l'utilisateur, je crois.
Non, non, mais bravo, vous êtes de meilleurs humains que moi.
Je les perds au fond de mon sac, donc que ça bip enfin pour se signaler et que j'arrête de vider l'intégralité de mon sac à main pour retrouver le boîtier, ça c'est nickel. Mais je les ai jamais perdus.
Et du coup, ce qui me freine un peu, là, c'est que je me dis, bon, ok, c'est 299€, mais fois combien ?
À noter d'ailleurs, si
tu veux, autant ils font, tu vois, plein de trucs sur la louer, tu vois, loue ton iPhone au mois, etc. Moi, j'adorerais louer mes AirPods au mois.
Mais c'est dégueulasse, pardon. Mais si tu perds tout le temps tes AirPods, je pense qu'il faut que tu restes avec du fil air.
Du fil air.
Tu vas pas les perdre.
Non,
un gros cache.
Donc je vais te dire une horreur. J'ai trouvé une solution, c'est que j'ai des clones d'AirPods signés Huawei, dont le son est tout à fait correct. Et je sais plus combien ils coûtent, mais enfin, je crois que c'est 100 balles. Et là, tout à coup, je me dis bon, si je les perds, je connais le prix de l'amende. Voilà. Si quelqu'un chez Apple a l'idée de dire finalement. Voilà, à partir de maintenant, vos AirPods, ça va être 10 balles par mois. Super, je signe.
Oui, mais avec ça, tu veux qu'ils te les remplacent à chaque fois que tu les perds ?
Bah évidemment.
Ah oui, d'accord.
Donc... à 14,99, je ne suis pas compliqué. Voilà,
d'accord. Donc, quand tu les perds une fois par mois, tu veux des nouveaux AirPods pour 10 balles par mois, ad vitam.
Mais ils le font bien pour les iPhones.
Quand tu perds ton iPhone, ils te le remplacent sans poser de
questions. Je ne sais pas s'ils font la perte, mais ils font vol, le machin, la casse, enfin, tu vois, tout ça. Bah, oui, bon. Mm-hmm. Attends, te rends compte qu'à San Francisco, tu te souviens de l'histoire, à San Francisco, ils ont inventé les gens qui travaillent sur, comment s'appelle le réseau de train là-bas, Flute, c'est pas Martha, ça c'est Atlanta, enfin bon, ça me reviendra.
Bart.
Eh ben, il y a des techniciens là-bas qui ont inventé une espèce d'outil un peu bizarre avec une espèce de longue pince pour aller récupérer les AirPods tombés sur les voies. Parce qu'ils en avaient marre, on leur disait « Ah, regardez mon AirPod, il est tombé !» Oui, bah d'accord, alors on arrête les trains, on descend sur la voie. Non, maintenant, ils arrivent, bougez pas, madame. Regardez, enfin, madame, monsieur, il n'y a pas de... Voilà.
Oui, oui.
Voilà, bon. Et donc, je peux comprendre, c'est quand même... C'est quand même le truc chez Apple qui est le plus proche du consommable, l'AirPod.
On est d'accord. Entre parenthèses, on ne parle pas des dates de disponibilité, des prix, tout ça. Les prix ont un peu augmenté pour différentes raisons. Taux de change,
c'est la crise. Ça a augmenté en euros uniquement, hein, pas en dollars. Oui. Donc c'est taux de change.
Oui, non, mais c'est parce que le taux de change a changé et du coup, Apple étant une société américaine, ils veulent plus d'argent. Je pense que c'est la motivation principale, hein, c'est qu'ils veulent plus d'argent. Mais quoi qu'il en soit, enfin, on a regardé les prix, à vrai dire, ça a un petit peu augmenté, mais quand on fait le total, on avait regardé sur les iPhones, le prix est à peu près équivalent à celui des Américains. Donc, on a l'impression qu'on se... On se fait avoir, mais en fait, pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, donc on ne donne pas toutes les dates et tous les prix, mais vous pourrez trouver ça sur les différents sites. Voilà pour les AirPods Pro. Le gros morceau, c'était donc, à vrai dire, les iPhone 14 Pro et Pro Max. On va passer un peu rapidement sur les 14 et 14 Plus, qui ont un processeur qui n'est pas vraiment nouveau. C'est toujours le A15 Bionic. Qui est à peu près comparable à celui du processeur de l'iPhone 13 Pro. Les choses qui changent dans cet appareil, eh ben, il n'y a pas énormément de choses. Alors, il a la détection d'accidents de voiture, comme l'Apple Watch série 8, et il a la connexion par satellite qu'on évoquait tout à l'heure. En plus, on pourra parler de la caméra et l'appareil photo tout, dans un instant, mais pour résumer, ils ont beaucoup insisté sur la qualité de l'image en faible luminosité, donc les photos de nuit. Et le gros point qui a impressionné les gens, c'est la connexion par satellite. Quand on est perdu au milieu du désert et qu'on n'a pas de connexion cellulaire, on peut se connecter par satellite en pointant le téléphone vers le satellite qui est dans le ciel. C'est fait avec un partenariat, une société qui a des satellites dans le ciel. Hein. C'est vraiment des... Alors, j'imagine que ce n'est pas des satellites en orbite géostationnaire parce que ça fait un peu loin, mais une flotte de satellites. Ça ne marchera qu'aux États-Unis et au Canada. Il faut avouer que techniquement, c'est assez impressionnant. On connaît tous les téléphones satellites avec leurs grosses antennes. Hein. C'est possible techniquement, mais là, on a vraiment notre téléphone qui n'a pas vraiment de matériel supplémentaire, d'après ce qu'on sait. D'ailleurs, ça pose un tout petit peu la question de est-ce que ça serait techniquement possible de le faire avec des téléphones d'ancienne génération ? Peut-être pas. Mais on pointe notre téléphone, on le maintient vers le satellite et il peut se connecter. La connexion est très lente. Ça peut prendre plusieurs 10-15 secondes quand le ciel est complètement dégagé pour envoyer un message et parfois plusieurs minutes. Donc, il y a un petit questionnaire avant que vous ne faisiez la connexion et il vous demande quel est votre problème. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous saignez? Etc. Et ça envoie le message avec votre localisation aux autorités qui vont pouvoir venir vous aider. Le service est payant, on ne connaît pas tout à fait la forme, mais ils ont annoncé qu'il est gratuit pendant 2 ans et que donc il sera payant ensuite. Est-ce que ça sera un abonnement qu'il faudra penser à prendre avant de partir à l'aventure ? Est-ce que ça sera à l'acte ?
Un paiement à l'acte. Bonjour, j'ai un couteau dans le dos et je suis en bas d'une montagne. Oui, vous avez une carte de crédit ? non, je pense pas que ce soit à l'acte.
Non, mais ça peut pas être à l'abonnement non plus. Ils te facturent ensuite.
Enfin, en même temps, c'est comme,
parce que à l'abonnement, si tu l'as pas pris, si tu l'as pas pris avant de partir, tu te retrouves. C'est ce que je disais sur Twitter. T'imagines cette situation. Si c'est un abonnement et que tu ne peux pas l'utiliser si t'es pas abonné, tu te retrouves perdu au milieu des canyons.
Tu décèdes, je ne vois pas où est le problème.
Ben oui, non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as l'appareil qui pourrait te connecter, tu as le satellite.
Je vous renvoie à la base de notre relation contractuelle. Désolé,
c'est ça. Mais c'est quand même une situation. Donc, à voir comment ils le feront. Mais Elsa, quel est ton avis, toi qui es une grande aventurière, d'après ce que je comprends, avec ton compagnon, sur tout ça, pas forcément que l'histoire du satellite, hein, mais. Encore, je le précise, disponible uniquement aux États-Unis et au Canada à ce stade.
D'un point de vue technologique, c'est intéressant, mais ça démontre aussi que utiliser les satellites pour faire autre chose que d'envoyer des très, 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 très petits paquets de données à un tarif accessible par le grand public, ce n'est pas encore demain qu'on va y arriver. Enfin, je ne parle pas de la télé hein, par satellite, mais je parle vraiment de l'échange d'informations entre un particulier, un service, voilà. Donc on reste sur des petits paquets de données parce que sinon ça coûte une blinde. Là où Apple est très fort, c'est qu'ils ont su faire rentrer l'antenne satellitaire et les processeurs qui vont avec dans un iPhone.
Alors pour préciser, ça, c'est l'antenne,
pas, et sur
c'est
des
pas une antenne dédiée, hein. C'est les antennes qu'on utilise pour les connexions existantes.
Non, mais ça veut dire qu'elle est adaptée aussi aux fréquences des satellites. Donc, ils ont rajouté des fréquences aux fréquences traditionnelles pour que tout ça, ça fonctionne. Donc, ça, c'est super malin. Après, sur le prix, imagine, mais on parle d'Américains, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, sauf erreur de ma part, bonjour, vous avez une couverture. Non, désolé, on ne va pas pouvoir vous soigner. Ça arrive à l'hôpital. Donc, ça va choquer personne que vous avez l'abonnement. Ben non, ben, tu n'enverras pas ton message non plus. Donc, c'est un peu dans cette même logique pour moi. Hein. Enfin, c'est absolument atroce comme mode de fonctionnement et vive la sécurité sociale. Mais je le dis vite. Mais le principe de dire, ben, éventuellement, il faudra penser à s'abonner sur un mois parce qu'on sait qu'on va aller faire un trek dans les Rocheuses. Je pense qu'ils peuvent tout à fait trouver une clientèle.
Non, mais ils peuvent aussi trouver une formule, hein, tu vois, une formule, un truc disant...
Ils vont trouver un système marketing qui fera que
un truc où on dit, par exemple, tu vois, ton premier message est gratuit.
Voilà. Ou si ça te sauve vraiment la vie, on t'offre la vie.
Parce que c'est vrai, non mais Patrick a raison sur le fond, c'est-à-dire le côté, voilà, cette famille de 4 personnes est morte au fond d'un canyon parce que leur connexion n'a pas marché. Et ils ont gravé sur la pierre Apple Killed Me, tu vois.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au-delà de la tragédie du truc, de l'aspect tragique, si on ne pense qu'à Apple, la première fois que quelqu'un va mourir et qu'il aura son téléphone et il se dit je pourrais me connecter aujourd'hui, techniquement j'ai tout qui marche. Mais je n'ai pas pensé à prendre l'abonnement avant, donc je suis en train de mourir parce que je suis en train de saigner maintenant au milieu de la montagne. Et ça fait un film, ça, tu vois. C'est Into the Wild, mais avec Apple. Donc, ça,
évidemment, c'est tout ça. Il mange
le bras
possible.
Parce qu'il est coincé.
C'est ça, voilà. C'est ça.
Non, mais ou pire, il se dit, j'ai pris ce téléphone-là parce que justement, il a le satellite, mais il n'a pas compris qu'il y avait un abo. Enfin,
ouais, bon.
Il va falloir trouver des solutions, quoi. C'est pas...
Ouais.
Mais
ceci dit, à
tout
côté,
tout ça me rappelle. Je suis désolé, c'est une incise qui n'a parce que évidemment, on parlait de la Sécu. Tu sais pourquoi Breaking Bad n'aurait pas pu se passer en France parce que carte vitale. Je tombais sur un petit mime où tu vois Walter White qui arrive chez son médecin. Le médecin lui dit Monsieur White, je suis désolé, vous avez un cancer. Ah bon? Ah c'est dommage, c'est moche quand même. Oui, vous avez votre carte vitale. Ben la voilà.
Voilà. Effectivement, oui. Non, mais ça, on est d'accord. Là, c'est quand même... je crois aussi que ça sera moins utile en Europe, mais pour d'autres raisons, parce que carte vitale ou pas, si t'es perdu au milieu de la montagne sans connexion et que t'arrives plus à marcher, t'as pas de carte vitale. Mais la densité de population est quand même plus grande en Europe. Et je pense que même s'il y a certainement des endroits où on peut ne pas avoir de couverture... Je pense qu'ils sont un peu plus rares qu'aux États-Unis. Oui. Mais techniquement, la chose est quand même impressionnante, je trouve. L'idée, philosophiquement, c'est qu'on ne sera plus jamais... Parce que là, c'est Apple qui lance le truc, mais ça va arriver partout et tous les téléphones l'auront dans 3 ans. Ça sera impossible d'avoir un téléphone qui ne peut pas faire la chose. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra mieux staffer les unités de secours, parce que tout le monde va pouvoir les appeler. Mais ça voudra dire que où qu'on soit sur Terre, on pourra envoyer un message de détresse, quoi.
Il faudra voir comment ça se développe, mais le truc vraiment intéressant, ça sera où qu'on soit sur mer.
Aussi, oui, bien sûr. Encore que sur mer, je pense que si tu vas quelque part sur mer, tu as de toute façon un équipement. Là, on revient à l'histoire des voitures.
Mais après, ça revient à coût. Je veux dire, c'est plus les mêmes coûts. Là, l'avantage d'Apple, c'est qu'ils mettent à la portée du grand public un équipement qui est très cher. Donc là, il le démocratise de façon absolument fabuleuse. Ouais. Moi, j'étais à la limite presque un petit peu déçue sur le côté satellite parce que je me dis, waouh, est-ce qu'ils ont trouvé une solution pour qu'il n'y ait plus de zone blanche? Et là, on n'y est pas encore.
Ah oui, mais non.
Là, on n'y est pas encore parce que ça reste trop cher. Il n'y a pas eu de truc miracle. On est sur le tout petit
paquet. Une antenne, antenne Starlink dans une valise livrée avec, tu vois, mais bon.
À part ça, on n'a pas vraiment d'autres suggestions. L'iPhone, alors le truc, alors, bon, deux choses. D'abord, il semblerait, d'après les premiers retours qu'on a, que les précommandes sur l'iPhone 14 et surtout l'iPhone 14 Plus, parce que ça, c'est un élément qu'on n'a pas encore évoqué, ils ont fait un iPhone 14, donc non pro, qui est plus grand pour la première fois dans la gamme des iPhones normaux, pas les pros. Ce qu'ils avaient fait l'année dernière, c'est qu'ils avaient fait un iPhone 13 mini, donc qui était plus petit. Là, ils ont changé de stratégie, ils ont fait un iPhone 14 Plus, donc plus grand. Et sur les premières précommandes, en tout cas, qui ne sont peut-être pas indicatives du très grand public, là, c'est les gens surexcités qui vont commander leur téléphone immédiatement, qui vont aller chercher les trucs. Visiblement, les retours, les précommandes d'iPhone 14 Plus sont très, très faibles, d'après Minchi Kuo. Et donc, il va même jusqu'à dire que c'est un échec de la stratégie d'Apple. Il semblerait que sur cette gamme de téléphones, les gens veulent juste le normal et pas un plus grand, pas un plus petit. Ils veulent le normal, ils ne veulent pas s'emmerder. C'est un produit de commodité, ils veulent le téléphone. Donc ça sera à voir. Mais le truc qui est à noter sur le Pro, c'est que c'est le téléphone qui a un nouveau processeur, des nouvelles, là pour le coup, vraiment un nouvel appareillage photo avec un capteur 48 mégapixels qui peut faire du pixel binning pour faire des photos 12 mégapixels, comme toujours, mais qu'on peut aussi débloquer en RAW pour les professionnels s'ils veulent, pour avoir une plus grosse quantité de pixels, beaucoup plus efficace en basse luminosité. Tout est mieux. Tout est incroyable. Et puis surtout, il y a l'écran toujours allumé, qui est une première dans la gamme de téléphones d'Apple, qui va permettre de profiter des nouveaux écrans d'accueil de iOS 16 de manière beaucoup plus efficace, puisque l'écran sera toujours allumé. C'est possible parce que l'écran a c'est un LTPO qui peut descendre à 1 Hz. Alors, il y a d'autres téléphones qui le font depuis longtemps, mais du coup, la batterie reste correcte. Malgré le fait que le téléphone soit toujours allumé. Et puis, au-delà de tout ça, qui sont sans doute les choses les plus importantes techniquement, il y a la chose qui, moi, m'a complètement conquis, et je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire, c'est le Dynamic Island. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dynamic Island ? C'est le nom qu'ils ont donné à ce nouvel élément d'interface qui est là, en fait, pour camoufler le nouveau capteur Face ID qui a cette forme de pilule dont on avait beaucoup parlé avec les différents leaks qui avaient été montrés depuis des semaines et même des mois. Et du coup, on n'a plus le petit notch, mais juste une grosse pilule. Et ils ont réussi à faire de ce désavantage un incroyable avantage en s'en servant comme zone, non pas de notification, mais on va dire d'activité de programmes qui sont en tâche de fond. Et la partie noire, qui est donc cette petite pilule en haut de l'écran, on a l'impression du coup que c'est plus une partie noire qui est une partie découpée de l'écran, mais il y a quelques petits indicateurs au milieu entre les deux éléments de capteur de photo. Et déjà, donc ça nous donne l'impression que c'est un petit peu un élément actif, mais surtout, quand on va écouter de la musique, quand on va lancer un minuteur ou ce genre de choses, la petite zone va s'étendre, c'est-à-dire que cet élément d'interface va s'agrandir et donner plus d'informations sur ce qui se passe sur votre téléphone. Et dit comme ça, ça a l'air un petit peu bête, mais dans la pratique, c'est tellement délicieusement animé, tellement magnifiquement conçu au niveau de l'interface et de l'expérience utilisateur, qu'ils ont vraiment réussi à transformer cette faiblesse, qui est un trou dans l'écran, en une force parce que c'est un élément d'interface qui est délicieux, qui delight ses users, comme on dit dans la Silicon Valley, et qui fonctionne vraiment super bien, ce qui est fou parce qu'ils auraient parfaitement pu le faire pour le notch à l'époque de l'iPhone 10 ou pour... Enfin, il n'y a aucune raison technique que ça soit réservé à cet appareil-là, mais ils en font un élément distinctif. Et vraiment, allez voir à quoi ça ressemble, en particulier quand on ne voit pas le téléphone dans les mains de quelqu'un, mais les vidéos marketing d'Apple qui sont magnifiquement faites, c'est incroyable. Pour moi, c'était la partie la plus forte de toute la présentation. Ils ont réussi un coup de maître avec ce truc et ça va marquer l'identité des iPhones. Est-ce que je me suis laissé complètement embarqué dans le Reality Distortion Field de Tim Cook?
Non, parce que je suis d'accord avec le fait que c'était les quelques minutes de. Dans tous les communiqués de presse d'Apple, à chaque fois, il y a marqué We surprise and delight. Et ça, c'était la minute surprise and delight. C'est le truc qu'on n'attendait pas. On s'attendait à ce que le notch, donc la pilule, soit plus petite. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils en aient fait, tu l'as dit, un avantage, une fonction plutôt qu'un bug. Et tu aurais dû dire qu'en fait, ils avaient trouvé le truc pour faire passer la pilule, mais je te le donne.
Comment je pas fait. Écoute, là, tu m'as trouvé le titre de l'épisode, parce qu'en plus...
You're welcome.
On pourrait parler du prix, mais on va le faire dans un instant avec question de passage de pilule, parce que là aussi, ça fonctionne.
Mais c'est intelligemment fait, c'est... Tu vois, c'est le truc qu'on peut vraiment aimer chez Apple, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc qui est bien fait, qui est évidemment, alors là, quand ils disent, tu vois, l'alliance du software et du hardware, parfois, c'est un peu performatif. Là, pas du tout. Moi, j'étais un peu déçu au début en disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore un notch, quoi? Peut-être qu'on peut s'en passer complètement. Non. Tu disais pourquoi ils ne l'ont pas fait sur les précédents. Je pense que parce que là, ils ont réduit le truc en pilule, le notch, il est assez petit pour laisser une place sur l'interface. De fait, il faut aller le voir pour le comprendre, mais tout à coup, dans ce petit espace sur les côtés du notch, toujours sur fond noir, vous allez avoir des icônes qui vont dépendre du contexte de l'appli qui passe un truc, de ce que vous êtes en train d'écouter en tâche de fond. Enfin, ça a l'air vraiment remarquable. En fait, j'attends de l'avoir dans les mains pour avoir une opinion définitive, mais... Ouais, ça fait assez plaisir. Enfin, c'est-à-dire que c'est bête, mais c'est presque une motivation à acheter un nouvel iPhone.
Bah, moi, j'ai beaucoup hésité. Mais ce que je voulais dire avec, ils auraient pu le faire ailleurs, on peut imaginer ce type d'interface, pas exactement la même chose, avec le notch, ils pourraient le rajouter dans iOS 17 ou 18, ça serait techniquement possible d'en faire quelque chose. Il y a ce type de cut-out dans l'écran, ce type de trou dans l'écran pour laisser des éléments de caméra existe sur Android depuis des années. Et aucun constructeur n'a réussi à faire un truc aussi malin. En plus, on peut appuyer sur la partie caméra, qui n'est donc pas une partie écran tactile, mais j'imagine qu'il détecte le doigt qui s'approche, qui couvre la caméra. Et donc, on peut même interagir avec la partie qui n'est pas de l'écran tactile. Enfin, à vrai dire, peut-être que c'est simplement une couche tactile par-dessus la caméra.
Alors, si vous pouviez éviter de mettre le doigt sur la caméra, dans l'ensemble, à chaque fois que je dois faire des remarques à des gens qui auto-tournent des vidéos, c'est alors un petit coup de lingette sur la lentille d'abord. Voilà,
c'est vrai.
Merci.
Elsa, est-ce que tu...
Oui. Un truc là-dessus, c'est surtout, je vais faire la rabat-joie de service, enfin du multitasking, quoi.
Alors, c'est pas tout à fait du multitasking, mais c'est vrai qu'on a l'affichage de ce qui se passe sur notre téléphone, ce qui là, pour le coup, était un manque affreux de l'iPhone jusqu'à maintenant. Tu savais pas ce qui se passait en tâche de fond sur ton téléphone, c'est vrai.
Moi.
Oula. Eh ben voilà, elle dit du mal d'Apple.
Oui. Non, je tempère juste votre enthousiasme.
Non, parce qu'on t'entend moins bien, t'as coupé, c'est pour ça que je dis Apple t'a encore sanctionné.
En fait, grâce à la dernière génération du processeur A14, dès que tu dis un truc un peu désagréable sur Apple...
Dès que je dis Android,
c'est ça.
Un truc de malade.
Voilà. Mais c'est vrai que là aussi, enfin, t'as tout à fait raison de le rappeler, Elsa, c'est un truc... Jusqu'à maintenant, si tu lançais un minuteur et que tu écoutais de la musique, enfin bon, la musique à la limite, il y avait sur l'écran d'accueil, mais ton appel, tu avais le petit truc vert en haut à gauche de l'écran, fallait appuyer dessus pour savoir quel.
Il se passe un truc derrière, voilà.
C'est ça.
Ou pareil,
si t'avais une application,
GPS ou n'importe quoi.
Si t'avais une application de VoIP par exemple, c'était il y avait uniquement ce petit machin vert qui te l'indiquait, enfin. Oui, ça vient pallier un manque clair de l'OS. Mais il n'empêche, écoute, moi, je suis... du coup, Elsa, toi qui es un petit peu plus objective sur cette question, c'est quand même hyper delightful, ce Dynamic Island, non?
Tu n'es pas surprise and delighted, je ne comprends pas.
Non, mais c'est une vraie question.
C'est une vraie question parce que... Déjà, je ne l'ai pas pris en main encore, le téléphone. Je ne vois pas si le truc a vraiment tenu ses promesses. Il faut voir aussi sur les usages, tu vois, en vidéo, si tu as le Dynamic Island, comment tu peux éventuellement le désactiver. Parce que si tu regardes un truc en déplacement, n'importe quoi, au hasard, en ce qui me concerne, un match de rugby, alors que je n'ai pas de téléviseur à portée de main ou n'importe quoi, je n'ai pas forcément envie d'avoir des tâches de fond qui s'affichent, tu vois. Mmh. J'ai pas bien compris comment ça s'activait, ça se désactivait.
Ça, je suis sûr qu'on peut le désactiver.
Je veux pas qu'on me dise « Maman, essaye de t'appeler », tu vois. M'en fous, je regarde un match. voilà. Donc, comment ça se fait ?
Et moi,
maman. Ouais, non, mais j'adore maman. Hein. Et non, mais plus sérieusement, je trouve que ça apporte un côté multitâche qui, quelque part, faisait défaut à l'iPhone pour un téléphone qui... dont on se sert quand même beaucoup et qu'on apprécie énormément. Voilà, je ne vais, vais pas dire le contraire.
Tu vois, et là, ta voix passe parfaitement.
C'est pas le magique.
Le truc que je noterai quand même sur cette histoire de Dynamic Island, deux choses. D'abord, le nom, bon, ouais, beaucoup de gens s'en sont moqués, mais il faut bien nommer les choses, parce que sinon, c'est difficile. Si on avait dit, la petite pilule en haut, le truc, là, bon, maintenant on l'appelle Dynamic Island, ça fait rire les gens, mais au moins, ça a un nom. Mais surtout, un truc qui risque d'être un petit peu, peut-être pas la déconfiture, mais un petit peu frustrant à l'usage, c'est que c'est tout en haut de l'écran. Et du coup, quand on tient son téléphone, il faudra bien le tenir à deux mains pour pouvoir y accéder, parce que on n'a pas vraiment les doigts, à moins d'avoir des mains de géant, on n'a pas vraiment les doigts qui atteignent tout ça, et ça, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on voit les vidéos marketing d'Apple. Mais au-delà de ça... Il y a vraiment une sorte de magie de... Je dirais que sur deux choses, l'écran d'accueil d'iOS 16, c'est vraiment juste beau, quoi. Et ils ont réussi dans cette optique dont parle souvent Jérôme Kainborg, notre ami, de mettre Apple... Apple, c'est une chambre d'hôtel. Et on n'est peut-être pas chez nous, mais tout est beau. Et là, c'est vraiment ça, quoi. L'écran d'accueil, il est beau. Quelles que soient les photos qu'on prenne, ça va être beau. Là, ce Dynamic Island, c'est une interface qui est super belle, super bien pensée. C'est une manière de penser les interfaces que je crois on n'avait pas vu depuis un moment, ni chez Apple, ni à vrai dire même ailleurs, et qui là montre une force qu'a la société, qui est une de ses forces assez uniques, quoi. Et bon, je suis curieux aussi de voir comment ça fonctionnera à l'usage, le Dynamic Island. Mmh. Je crois qu'on a fait
caméras.
Le tour, non ?
Moi, franchement, j'attends aussi de tester pour le côté caméra.
Voilà. Ouais, la caméra, c'est le truc qui évolue à chaque année dans dans les téléphones, dans les nouveaux iPhones et tous les téléphones, y compris les Android. Tu crois qu'il y a une vraie amélioration sur celui-ci ou... Tu attends vraiment de tester.
Wait and see.
Ouais, wait and see.
Ouais. Bon,
ce qui est clair, c'est qu'on a un capteur qui est plus grand, mais qui, du coup, les pixels sont plus petits, mais il y en a plus, et puis ils les mettent en commun pour faire des photos. Bon, a priori, sur les photos 12 mégapixels, ça sera meilleur. Et puis, sur les photos 48 mégapixels, si on est quelqu'un qui sait ce qu'on fait, ça pourrait être une bonne qualité aussi. Donc voilà.
Il y a aussi toute la partie vidéo. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'attendais que la présentation du Pro et du Pro Max pour te dire.
C'est pour ça qu'ils l'ont gardé.
Le mode cinématique, 24 frames, enfin, le fait de pouvoir tourner en ProRes, enfin, bon, c'est-à-dire dans un format non compressé ou sans perte, etc. Quand je vois ce qu'on arrive déjà à sortir avec un Pro Max, un 12 Pro Max, par exemple, c'est remarquable. Donc voilà, là, je. Enfin, on est tous dans une situation, enfin tous, non, ça marche pas comme ça, mais je veux dire, on est beaucoup à être dans une situation où finalement, on cherche juste une excuse pour acheter un nouvel iPhone.
Genre, je pense que Cédric a trouvé son excuse.
et là, tout à coup, c'est « Ah bah c'est pour le travail !» Ah bah alors, si c'est pour le travail...
Ça va un petit peu mordre sur ce dont je veux parler dans notre after show quand on va parler de ces sujets, mais il y a deux choses. D'une part... Je crois que beaucoup de gens voient le téléphone de la génération d'avant, enfin de l'année d'avant, et disent « Oh, il n'y a pas grand-chose qui change ». Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on réfléchit. On regarde les gens qui vont changer de téléphone, l'ont souvent gardé 2-3 ans, parfois même plus, quand ils ne sont pas des enthousiastes ou des professionnels qui ont besoin de tester les nouveaux produits. Et puis surtout, je crois que la conscience de l'urgence climatique fait que... Enfin, moi, la manière dont je le dis, c'est que changer de téléphone tous les ans, aujourd'hui, c'est presque devenu irresponsable. C'est même pas presque, je trouve que c'est devenu irresponsable. Non seulement pour des questions...
Disons tous les ans.
C'est ce que je veux dire, oui. Tous les ans, c'est irresponsable. Tous les deux ans, bon, ça peut à la limite... et encore, changer de téléphone plus que tous les cinq ans, c'est irresponsable. Mais vraiment, tous les ans, il y a tellement peu de changements par rapport à celui de l'année d'avant que vraiment, c'est plus que juste chercher une excuse pour le faire. C'est un caprice, quoi. Et parfois, il est bon de faire des caprices, peut-être, mais là, il y a un contexte qui fait que... Mais oui, changer de téléphone tous les ans. Aujourd'hui, je crois que sociétalement, je me demande si ça ne va pas commencer à être... Si tu vois quelqu'un qui avait un 12 Pro et qui a acheté un 13 Pro et qui achète un 14 Pro, je pense qu'on va le regarder avec un œil un petit peu...
Ouais. Je ne parle pas de ceux qui le reçoivent en service presse, mais là, j'ai des noms là-dessus que je ne partagerai
oui,
pas.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais oui, on les connaît, ceux qui payent la taxe tous les ans, tu vois. Mm-hmm. C'est voilà, comme l'impôt révolutionnaire.
Il y a 4-5 ans encore, et peut-être que c'est ma vision du truc et que moi, je pense, tu vois, à moi, mais il y a 4-5 ans ou 6 ans, je pouvais comprendre parce qu'il y avait effectivement des changements régulièrement. Aujourd'hui, vraiment, on sait que le produit qui est problématique pour l'environnement, c'est le produit qui est nouveau, qui est produit. Et ça marche pour les voitures, pour les appareils électroniques, pour tout. Et oui, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, avec le fait qu'on est arrivé à une maturité telle dans ces produits-là, que le fait d'en racheter un alors que tu as celui de l'année dernière, c'est carrément... Enfin, il n'y a aucune raison, vraiment.
Je peux quand même dire un truc pour la défense d'Apple ou pas, parce que,
pour la défense des acheteurs d'Apple, mais vas-y, vas-y.
Non, mais il y a quelque chose qui est super important. Moi, je fais une fixette sur le marché du reconditionné. J'adore ce marché, c'est passionnant. Le gros du marché du reconditionné, en France, à 80% pratiquement, c'est iPhone. T'as le solde, c'est Samsung, et des miettes pour les autres. Pourquoi ? Parce que les iPhones durent plus longtemps. Donc, tu as les gens qui hurlent à l'obsolescence programmée. Bah, elle est moins obsolète rapidement chez Apple que chez les autres, talonnée par Samsung. Et tu as cette constance dans le prix. C'est un peu la seconde main d'Apple, c'est un peu la seconde main BMW versus la seconde main Dacia, quoi. Ta BM, tu la revends cher de seconde main parce qu'elle continue de valoir cher, parce qu'elle a une durée de vie, parce qu'elle se revend et parce que le prix de la neuve reste élevé. Alors que quand tu décotes sur la neuve 6 mois après la sortie du produit, les gens l'achètent neuf et ne l'achètent pas de seconde main. Et tu as aussi cette mise à jour des OS qui font que tu peux qui sont utilisés plus longtemps. Donc le taux de renouvellement n'est pas forcément corrélé, c'est compliqué, mais c'est comme ça, avec la durée d'utilisation.
Alors oui,
donc,
mais voilà. Quand même.
Donc je mets un petit. Donne une autre excuse à Cédric pour.
Non, mais
sur ce point.
Mais darling, je vais le donner à Junior, donc tout va bien.
Sur le point que tu notes, c'est une évidence, et sur ce point, on est complètement d'accord. Admettons même que la tech soit coupable dans la question de... Non, mais je veux dire, tu as complètement raison. Admettons même que la tech soit coupable sur ces questions, ce qui reste à prouver par rapport à d'autres industries. Dans la tech, Apple est de loin le meilleur élève. Et ces éléments que tu mets en avant sont hyper importants. Moi, ce dont je parle, c'est les acheteurs, les gens qui vont vouloir le dernier téléphone parce que c'est le dernier téléphone, parce que c'est leur hobby et parce que c'est leur passion, ce que je peux comprendre aussi. Mais
alors, s'ils ne peuvent pas s'en empêcher, revendez l'ancien, comme ça il aura une deuxième vie.
C'est sûr, mais c'est vrai. Encore une fois, la manière de se préoccuper de l'environnement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas... C'est même le cas pour les voitures, qu'il n'y ait pas de nouvelles choses produites. Si tu veux vraiment pas que ta voiture ait un impact sur l'environnement... Il ne faut pas changer ta voiture qui a thermique qui a 3 ans et pour acheter une voiture électrique. Il faut garder ta voiture thermique aussi longtemps que possible parce que c'est à produire qui a le plus gros impact, si je ne me trompe pas.
Alors oui, mais non. Oui, mais non. Et c'est là où l'analogie avec l'automobile ne fonctionne pas. Ouais. Tu arrives sur mon terrain. En fait, la grosse différence, c'est que sur le marché de l'automobile chez nous, 4 ventes sur 5, donc 80% des reventes, se font sur de l'occasion. Sur 5 voitures vendues en France, il y en a une qui est neuve. Et on n'en est pas encore là sur le marché de la téléphonie. Je sais pas ce que, tu vois, Backmarket et les autres représentent en termes de...
À peu près à 2,5 millions de téléphones reconditionnés sur un marché qui, l'année dernière, devait faire 17 ou 18 millions de pièces. Oui.
Voilà, donc on est encore sous les 10%.
Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut acheter des iPhones pour qu'on puisse en avoir plus en reconditionné, c'est ça ? Il faut que je m'achète un iPhone 14 Pro.
C'est un des problèmes, hein, c'est un des soucis possibles qu'on pourrait avoir avec sur la voiture électrique. C'est qu'en fait, il ne va pas s'en vendre assez pour alimenter un marché de l'occasion au même volume. Bon, c'est des choses qui vont s'équilibrer
sur
dans le temps.
Sur le marché du reconditionné, je réponds à ta question, le principal problème des reconditionneurs, c'est de trouver des téléphones à reconditionner.
D'accord.
C'est donc, que si, je donc pense que vraiment, si en plus, ils les vendraient quand même.
Donc ce n'est même pas une plaisanterie. Acheter un téléphone qui va durer plus longtemps que les autres, c'est une bonne chose pour alimenter le reconditionné. Et du coup, ça fera que les personnes qui veulent acheter du reconditionné, au lieu d'acheter un téléphone de moins bonne qualité, peut-être, vont acheter un iPhone qui va leur durer plus longtemps en reconditionné.
Et qui va leur durer plus longtemps avec peut-être une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux qu'un téléphone que tu vas payer 150 ou 200 euros, qui éventuellement acceptera de fonctionner 6 mois et plus, et qui produit dans des conditions qui ne sont pas toujours transparentes absolue.
Si tu es chez un des 4, 3 ou 4 ou 5 grands, les conditions sont à peu près les mêmes. Moi, pour revenir là-dessus, évidemment, Apple a fait une petite virgule là-dessus en disant, tu vois, le respect de l'environnement, le machin, on veut être zéro carbone pour tout, etc. Super. Et tu ne peux pas quand même t'empêcher de te dire, ouais, enfin, en même temps, si vous vouliez vraiment faire un truc super efficace, vous ne sortiriez un nouvel iPhone que tous les 2 ans. Mais je pense pas que ce soit un truc vraiment audible quand tu es Apple, parce qu'évidemment ils sont sur un rythme, quoi. C'est, t'imagines si l'année prochaine ils disent non, pas de keynote cette année, non, reviens en 2024.
C'est disons que
ça serait
carrément disruptif pour leurs actionnaires, parce que l'iPhone aujourd'hui et de loin le plus gros revenu d'Apple. Et au-delà de ça, ils ont tellement de parts de marché avec les téléphones, enfin, de parts de marché sur le marché qu'ils visent, hein, qui est plutôt un marché haut de gamme, qu'ils se sont beaucoup concentrés sur l'ARPU, le fameux Average Revenue Per User, donc vendre plus de choses aux utilisateurs qui sont déjà des utilisateurs à eux. Ils ont extrêmement bien réussi. Et là, ce qu'on constate, à mon avis, avec cette décision de ne pas inclure le nouveau processeur dans l'iPhone 14, mais de le garder pour l'iPhone 14 Pro, c'est qu'ils font de l'upsell. C'est que si tu veux le nouveau téléphone, bah, tu ne vas pas prendre celui qui a le même processeur que l'année dernière, tu vas prendre le nouveau processeur. Et du coup, il y a une différenciation supplémentaire pour le modèle le plus cher, qui va rester dans les années à venir, parce que j'imagine que maintenant que la marche est montée pour les modèles pro, bah dans les années à venir, le modèle normal va prendre le processeur du pro de l'année d'avant et le pro aura le nouveau processeur. Et du coup, chaque année, maintenant, il y aura une raison de plus d'aller payer le téléphone le plus cher. Et donc, ils ont augmenté leur revenu par ce biais, en vendant le téléphone plus cher à plus de monde. Et oui, ils ne peuvent pas, clairement, pour des questions boursières, se dire on va faire moins de téléphones. À la limite, tous les autres produits, peut-être, pourquoi pas, ils n'en ont certainement pas envie.
Bah c'est déjà le cas sur l'essentiel des MacBooks. Enfin, dans la partie Mac, ils ne sont pas sur un rythme annuel. Il y a des petites mises à jour mineures, mais c'est pas, ils ne font pas une nouvelle keynote. Il n'y a pas une nouvelle keynote iMac tous les ans, une nouvelle, tu vois.
Écoute, il y aura une nouvelle keynote iPad, normalement en octobre. Donc, on pourra en parler à ce moment.
Mais c'est pas un produit qui a de même. Tu vois, un iPad, tu le gardes longtemps.
C'est sûr. Merci aux Patriotes de soutenir l'émission. Patreon.com/RDVTech. Vous pouvez aller sur cette page. Vous choisissez la somme que vous voulez attribuer à chaque émission. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et à la fin du mois, vous êtes facturé. Et vous avez des bonus incroyables. Bien sûr, les remerciements chaleureux en début d'épisode. Vous avez aussi des émissions avec pas de pub, zéro pub. Et même cette petite promo au milieu est supprimée. Vous avez aussi les bonus, comme les éditos. J'en ai fait un hier sur la question de la musique dans les podcasts, qui risque de poser un problème à un moment. On va avoir l'after show aujourd'hui, etc., etc. Bref, si vous appréciez surtout ce que vous avez comme bonus, c'est la fierté d'être patriote, de rejoindre la grande famille des patriotes de l'émission. Et le savoir d'être dans mon cœur, juste là, dans mon petit cœur. Je vous y mets tous et vous êtes gardés au chaud et vous me gardez au chaud moi aussi. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, donc il suffit d'aller dans les notes de l'émission et puis vous pouvez vous abonner même sur votre téléphone super méga puissant qui peut faire ça pendant que vous écoutez le podcast ou alors quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites « Oh, Patrick, j'ai oublié Patrick, comment ai-je pu oublier Patrick ?» Patreon.com/rdvtech.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et on enchaîne avec le reste de l'actu. Le reste de l'actu... sur lequel on va aller vite, décision du gouvernement, plusieurs, alors une recommandation pour la question des rançongiciels. Le ministère des Finances, voilà, c'est ce que je cherchais, a recommandé pour la question des rançongiciels. Enfin, non, c'est pas qu'ils ont recommandé, je reprends à zéro. Ils ne s'opposent pas à ce que les assurances indemnisent les victimes d'arnaques de rançongiciels. Vous savez, rançongiciels, c'est les malwares qui vont bloquer tout votre système informatique et qui va vous demander de payer une rançon aux malfaiteurs pour vous débloquer. C'est un petit peu controversé, cette question, parce que d'un côté, ça peut encourager les malfaiteurs si... les gens sont dédommagés et du coup, ils prennent moins de protection parce qu'ils se disent « bon, de toute façon, je suis assuré, s'il y a un problème, on me dédommagera ». Et du coup, ça peut encourager la pratique. D'un autre côté, tout le monde n'est pas encore vraiment au fait, tout le monde n'écoute pas le Rendez-vous Tech, malheureusement, vous devriez tous. Mais surtout, ça peut vraiment mettre un coup d'arrêt à certains domaines de l'économie. Parce qu'une société peut être en très très mauvaise posture si elle a été victime d'une arnaque de ce type-là, et puis ensuite que l'assurance refuse de la dédommager, elle peut être en grande difficulté. Donc c'est pour ça que Bercy a fait cette non-recommandation, mais enfin ne s'y oppose pas. Le gouvernement a promis de qualifier les dark stores comme... des entrepôts. Vous vous souvenez qu'on parlait des dark stores ces dernières semaines. Ce sont les magasins dans lesquels on ne peut pas rentrer, mais qui servent de centre de livraison au quick commerce, les Gorillas, tout ça, qui vous livrent en 10 minutes et qui donnent des problèmes de diverses natures, notamment aux personnes qui habitent dans les immeubles, avec plein de livreurs qui vont et qui viennent, qui fument à côté, etc. Et qui font beaucoup de bruit, même la nuit. Et puis surtout, un danger pour le commerce local. Le gouvernement a finalement décidé et promis de faire un arrêté classifiant les choses comme des entrepôts au lieu de boutiques et donc donnant le droit aux maires de s'opposer à leur ouverture. Donc a priori, c'est un petit peu la fin de la récré, peut-être même la fin de la vie du quick commerce. Ça pourrait être très, très problématique pour eux. Et puis, le gouvernement américain... a publié un rapport qui propose de restreindre légalement les mécanismes de proof of work des réseaux de minage de crypto-monnaies. Donc le proof of work, vous savez, c'est cette méthode de minage et de gestion des bitcoins et des crypto-monnaies qui est très, très, très énergivore. Donc le gouvernement américain pourrait réguler la chose. Trois news du gouvernement, je vous laisse le choix à tous les deux. Si vous voulez commenter l'une ou l'autre, vous pouvez le faire maintenant.
Bah, juste sur le côté assurance, je crois que c'est quand même ciblé PME. Et les assureurs, à mon avis, ne vont pas dire aux gens « si vous êtes victime d'une tentative d'escroquerie informatique, que nous appelons rançongiciel, nous vous rembourserons sans problème ». Ils vont dire aux gens « ok, pour avoir l'assurance, vous mettez ça, 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 ça et ça en place ». Et je pense que ça, c'est un vrai bon signal positif. je veux dire, c'est comme quand on aime bien les analogies voitures. Hein. Quand tu assures ta voiture, tu payes moins cher quand elle dort dans un parking que quand elle dort dans la rue. Voilà. Bah là, ça va être pareil. Ton assurance, si tu veux pas y laisser ta chemise et les deux bras, il faudra que derrière il y ait des vraies solutions cyber qui protègent l'outil informatique. Et puis sur les dark stores, moi je suis hyper d'accord pour qu'on mette un peu le holà parce que c'est pas écolo tout ça. Quand on a besoin d'une brosse à dents en urgence, on descend avec ses petites jambes, on va chez l'épicier du coin, surtout que les dark stores, ils sont quand même en milieu urbain. On n'appelle pas un pauvre mec qui est payé avec un lance-pierre et qui va livrer une brosse à dents dans un carton dans lequel on pourrait mettre une machine à laver de linge. Quoi. Ouais. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est tout dit. Et je n'ai pas d'avis sur le reste.
C'est un autre point de vue sur la question du quick commerce qui est largement controversé, on est d'accord.
Ouais, il n'a pas besoin d'être si quick que ça, honnêtement. La livraison dans l'heure ferait l'affaire. Hein, tu vois, j'ai pas. Bon.
Ouais. Mais, on en avait largement parlé il y a quelques semaines, mais je suis assez d'accord sur le principe. Bon, 10 minutes, c'est peut-être overkill.
Oui, 10 minutes. Et puis, c'est rarement vraiment 10 minutes. Donc c'est
non,
pas,
maintenant, d'ailleurs.
J'avoue, les quelques fois où j'en ai eu besoin, ça m'a un peu sauvé la mise, je dois le dire.
mais tu pourrais survivre aussi.
Systématique. Survivre.
Oui. Survivre. ton ami Elon Musk, Cédric, a envoyé une lettre à Twitter et il a encore trouvé une nouvelle raison de mettre fin à leur accord de rachat. Je parle que de cette news, il y en a toute une tripotée hein, sur Twitter et les pérégrinations de Twitter et d'Elon Musk. Là, celle-là, je la mentionne parce que c'est quand même un petit peu ridicule. Après avoir donné deux raisons, là, il a encore une nouvelle raison qui est l'accord entre Twitter et le donneur d'alerte dont on parlait la semaine dernière. Twitter aurait payé,
mon pote,
voilà, exactement. Ouais. Twitter aurait payé 7 millions de dollars à son ancien directeur de la cybersécurité. Et Elon Musk a dit oh non, mais ça, c'est comment ça s'appelle une adverse material event qui
bah non, mais en gros, il dit regardez, Mudge a mis en évidence justement ce que je disais sur les
non, mais ça, c'est autre chose.
Pas faux compte. Oui,
ça, mais c'est
non,
autre chose.
Mais, attends.
Oui.
Oui, mais regardez, Twitter est en train d'essayer de lui a fait un gros chèque, en gros, pour qu'il se taise.
Oui.
Bon, je ne sais pas quelle est la validité de l'argument. C'est vrai que, de toute façon, il est dans une situation... En gros, il aurait bien voulu racheter Twitter, mais le problème, c'est que depuis, là, il voudrait le racheter pas au prix qu'il avait annoncé, parce qu'évidemment, l'action s'est un peu effondrée depuis. Donc, tous les arguments sont bons. Ils régleront leurs affaires entre eux. Je doute que ça finisse par lui coûter 44 milliards. Mais est-ce qu'il va être forcé de racheter ? C'est dur de forcer quelqu'un à acheter quelque chose dont il veut pas. Donc ils finiront par trouver un accord.
Oui, c'est possible.
Il y a plein d'avocats qui travaillent à 1 500 $ de l'heure et pour lesquels Noël est assuré.
C'est surtout que c'est encore une nouvelle raison pour laquelle il dit voilà, c'est pour ça que je peux arrêter mon. Bref. HBO et HBO Max. Sorte grand vainqueur des Emmy Awards, on pensait que ça y est, les streamers étaient les incontournables. Eh bien, HBO a eu 37 victoires, 37 prix, alors que Netflix n'en a eu que 26 et que les autres en ont eu quelques-uns de plus, genre 7, 8, 6, 7, 8, ce genre de choses. Mais donc HBO, les émissions de qualité restent les maîtresses des Emmy. Peut-être que l'industrie a voulu soutenir HBO plus que quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais...
Ah ouais, mais HBO est aussi un streamer maintenant avec
HBO Max, c'est
tout ça. Donc c'est,
même s'ils ralentissent hein, sur le streaming là, depuis l'arrivée du nouveau président. Mais,
Oui, tout à fait. C'est intéressant, j'ai écouté un truc sur lui. Enfin, peu importe. Mais de toute façon, les amis ne pouvaient pas passer à côté de Succession, qui est quand même l'un des... qui est une merveille, quoi, qui est un truc qui est pépite.
Il faut que je regarde.
Tu n'as pas vu Succession ? T'as pas vu Succession ?
Non, j'ai regardé un épisode et ça m'avait pas plu. Mais
il faut que tu rentres. C'est les Borgia, c'est tout. Ce truc, c'est tout à la fois. Enfin,
mais tu sais, en fait, Succession, c'est l'histoire de gens très très riches qui sont absolument détestables. Et j'avais envie, je crois, à ce moment, de voir quelque chose qui était un petit peu. Tu vois, je crois que c'était le moment où j'ai regardé Ted Lasso. Donc, entre ces deux salles, deux ambiances,
pas pareil. Très différent, très différent. Mais c'est amusant parce qu'en plus, ça illustre un principe assez régulier dans le business, c'est que la première génération, tu vois, de ces empires industriels, de communication, etc., etc. Et celle qui construit, et puis les suivantes déconstruisent souvent. Parfois, il y a une deuxième génération qui amplifie le mouvement. Regardez House of Gucci, par exemple. Mais d'ordinaire, la génération la plus jeune, elle détruit tout. C'est exactement ça. Mais regardez, juste les personnages sont extraordinaires. Extraordinaires.
Tu sais, ça me fait penser à un autre truc qu'on n'a pas dit sur Apple. Désolé. Le succès de Tim Cook est vraiment insolent après le départ du fondateur, dont on pensait qu'il serait, fatal à la société. Alors, ce n'est pas le même type de succès, mais vraiment, il y a une... Là, on arrive à suffisamment loin de la mort de Steve Jobs pour se dire, bah oui, il a vraiment réussi à maintenir le truc et à transformer la société en un truc qu'elle n'était pas du tout à l'époque au niveau taille, puissance, importance, etc.
Mais en continuant, amplifiant, on attend encore la vraie, vraie nouvelle vague. Alors, on a cru pendant un temps que ce serait une télé, on n'en reparlera plus, hein, c'est fini ça. non, parce qu'un jour, j'attendrai quand même que... Il y a bien des gens qui vont parler
un jour écrire un livre,
en disant « Mais en fait, la télé, elle existe, parce qu'on le sait qu'elle existait. Mais pourquoi elle n'est pas sortie ?» C'est une vraie question. Alors, est-ce que ce sera la voiture? Mais on voit jusque-là...
Est-ce que ça sera les classes de réalité virtuelle augmentée?
Plutôt réalité augmentée. Alors, apparemment, oui, ils ont de larges ambitions là-dessus. Mais en fait, la vraie question à chaque fois, c'est de se dire « Bon, qu'est-ce qui pourrait rajouter 1000 milliards de capitalisation à Apple ?» Et donc, en fait, ça laisse finalement des grands secteurs qui sont un peu toujours les mêmes. C'est l'éducation, la santé, la banque. La banque, je pense que c'est le plus facile.
C'est possible.
On serait assez nombreux après. Tu vois, ils ont une carte de crédit co-brandée à Goldman Sachs aux États-Unis. S'ils faisaient la même
mais
en
tous
France,
ces secteurs sont tellement régulés. Mais bon, après, pour quelques...
Oui, mais c'est super. Milliers... Attends, la régulation, quand t'es une grosse société, c'est super. Parce que c'est une énorme barrière à l'entrée face à des plus petites startups. Tu sais que
moi,
tu vas
je
pas
crois
te faire
que...
démonter.
Une vas-y, fois... Vas-y. Ouais. Je crois qu'une fois que Elon Musk se sera posé sur Mars, tu vois, et que toutes ces choses-là seront en route, là, ils pourront commencer à s'intéresser à l'espace. Ils arriveront 10 ans après tout le monde ou 20 ans après tout le monde, et là, ça sera... Donc, peut-être qu'on pourra aller passer notre retraite sur Mars tous les trois dans 30 ans avec...
Alors, plutôt la Toscane, mais je veux dire, chacun fait ce qu'il veut.
Donc là, tu veux nous faire monter dans une fusée Apple, c'est ça?
Mais c'est ça, exactement.
En forme de pomme.
Moi, j'attendrai la version, c'est comme pour iOS, j'attendrai la version 0.1 quand même.
Ouais, il vaut peut-être mieux. Google.
Avec Cédric, mais pas sur Mars aussi, je vote pour l'Italie.
Bon, Toscane, très bien, d'accord. Allez, vous m'avez convaincu, ok. On se retrouve en Toscane avec... là où il y a des chargeurs. Google va tenir sa conférence pour annoncer son Pixel 7 le 6 octobre. Donc ça arrive, ils arrivent eux aussi. Donc on aura les Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch a priori. Et entre parenthèses, on aurait les nouveaux Tensor, donc les processeurs faits par Google, qui seraient présentés, enfin détaillés à ce moment. Par contre, nouvelle assez surprenante, je dois dire. Enfin, en même temps, ça vient de Google, donc c'est peut-être pas si surprenant que ça. Leur équipe qui concevait les Pixelbooks aurait été démantelée et la production de ces Pixelbooks entièrement arrêtée. Les produits étaient quand même assez appréciés pour peut-être des geeks spécifiquement, mais je suis un peu surpris qu'ils abandonnent complètement la catégorie.
Bah, j'avoue que le premier Pixel, qui s'appelait pas Pixelbook, qu'ils avaient fait, était vraiment un truc remarquable. Enfin, le premier Chromebook brandé Google était... je l'ai encore.
Ouais.
Et c'est vrai que ça me mettait un peu la barre un petit peu haut par rapport à ce que sont les Chromebooks d'ordinaire. Donc, je sais pas, il y a une raison de business éminente, c'est-à-dire que je pense que c'est pas ça qui se vend. Ce qui se vend, c'est plutôt des Chromebooks à 300-400 €. Donc, dont acte. Et ils ont peut-être pas besoin autant sur ce marché-là de, tu vois, de montrer le chemin aux autres constructeurs.
Sur les téléphones.
Moi, je suis Asus, je suis Lenovo, je suis machin, t'inquiète pas, je vais y arriver à le faire, ton Chromebook. donc bon, il y a des explications probablement très valides, mais c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est toujours des très chouettes machines et moi, j'adore les Chromebooks.
C'est encore killed by Google, un truc de plus. Bon. Et Meta, d'ailleurs, va tenir sa conférence pour annoncer son nouveau casque de réalité virtuelle le 11 octobre. Donc, le 6 et le 11, on va avoir des choses à dire.
On sait désormais presque tout, parce qu'ils en ont oublié un dans une chambre d'hôtel.
Exactement. Il y en a un qui a été oublié dans une chambre d'hôtel.
Somebody, c'est ça. Somebody's gonna get fired.
Oui, là, vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais la personne qui l'a trouvé n'a pas du tout fait... Enfin, c'est vraiment un type qui a... filmer le truc, mais de manière complètement ridicule, en le montrant, en faisant et juste, mais il le montre, il ne détaille pas, de manière pas du tout professionnelle, il tient le truc avec son téléphone d'un côté, et puis tu vois rien, enfin c'est...
Oui, il le tourne comme si son téléphone était une lance d'arrosage.
Il a à Meta avant de le rendre, on ne sait pas. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est une vidéo de prise d'otage, Elsa. T'as exactement compris. Regardez, I have your virtual reality headset.
C'est ça, devant un drap blanc avec le journal du jour, tu vois.
C'est ça. Voilà. Et je crois qu'on arrive au bout de nos news. Il y a quelques trucs assez intéressants qui seront dans la newsletter. Un article hyper bien écrit sur la manière dont Wikipédia et les éditeurs Wikipédia ont géré la page de la reine Elisabeth II au moment de sa mort. Avec, j'ai appris une chose.
Elle est morte ?
Pardon. Écoute. Tu savais pas, j'ai une mauvaise nouvelle, Cédric, assieds-toi. Oui, effectivement. Va voir Wikipédia et tu verras la photo de la reine qui a du coup été remplacée parce que quand une personnalité publique meurt, du coup, on met plus forcément une photo récente, mais sa photo, genre une photo plus emblématique.
Une photo
tu vois.
Pour la postérité.
Pour la postérité, quoi. Exactement. Et du coup, la question de quelle photo on va utiliser, c'est hyper intéressant.
Ben ouais.
Aussi, une annonce de Meta qui va changer ses identifiants pour les pseudonymiser, qui est assez intéressant. Bref, tout ça sera dans la newsletter, notepatrick.com, pour voir de quoi il en retourne et avoir ma veille. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, vous pourrez la voir chaque semaine.
Alors c'est amusant, c'est une anecdote à deux balles, mais il y a un petit angle tech dessus. Il se trouve que mon épouse chérie était dans un avion pour le Canada au moment où la reine est morte, et qu'en plus elle n'avait pas activé son Wi-Fi. Moi j'ai envoyé un message genre « Ah, la reine est morte !» Et ben elle a quand même eu l'info, d'abord parce qu'il y avait plein de gens qui avaient activé le Wi-Fi, et sur les vols Air France, tu peux envoyer des messages gratuitement, mais aussi parce que les pilotes ont reçu l'info sur leur petit terminal qui est au milieu du dashboard de l'avion, qui normalement ne sert qu'à des messages techniques, des messages d'urgence, des machins, etc. Et ils ont tous reçu, alors à la fois les compagnies anglaises, etc., et puis ceux qui avaient des vols vers des pays du Commonwealth, on dit, voilà, we regret to inform you that, machin, machin. Oui, donc tout le monde. Mais donc l'info est arrivée quand même très, très vite.
Très bien. Donc, tout le monde était au courant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'en sont... émus que les gens s'en émeuvent. Et j'avoue que le fait de dire, oh, mais on s'en fout, pourquoi tout le monde en parle ? Enfin, j'ai eu... Bon, au-delà du fait que c'est quand même un personnage historique important, qui symbolise, c'est un peu comme un pape, où à vrai dire, elle était là depuis tellement longtemps, elle symbolise l'histoire et le siècle, quoi. Mais au-delà de ça, il y a quelqu'un qui disait, on a peu de personnalités politiques, parce qu'elle est une personnalité politique, de personnalités politiques qui ne sont pas, comment dire, partisanes ou orientées ou braquantes. Bien sûr qu'en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui sont, et partout ailleurs, qui sont contre la monarchie, mais je veux dire, le personnage est beaucoup moins crispant ou cristallisant des oppositions politiques qu'on peut l'avoir ailleurs. Donc, et puis, c'est le symbole du siècle, quoi, évidemment, qu'on va en parler.
Parce qu'évidemment, on ne connaissait pas ses opinions, c'est ça aussi, il y a tout un côté mystère, mais c'est-à-dire que dire, oh, c'est pas si important que ça, je vous signale. C'était qui le président quand elle a été couronnée ? C'était Vincent Auriol, tu vois. Donc, on était à la sortie de la guerre. Elle a dû connaître 12 ou 13 présidents français, 15 premiers ministres. Enfin, c'est un truc. 90% des personnes qui sont vivantes sur la planète aujourd'hui sont nées pendant son règne. Enfin,
oui,
c'est
non, mais
dur.
On n'a connu aucun autre monarque d'Angleterre, quoi. Enfin, monarque.
Voilà. Régnant. Donc, quoi qu'on puisse penser de la royauté, c'est vrai que c'est un système un peu. Enfin, c'est. Bon, c'est.
On pourrait en discuter, on va dire.
Côté féministe va vous signaler qu'il faudra attendre au moins 3 générations avant d'avoir à nouveau une reine d'Angleterre.
Ah bah ouais, là, c'est dead.
Voilà, parce qu'on a Charles, William, et puis l'autre, il s'appelle George, je crois, le fils. Donc,
la grande chance de William, c'est qu'il n'attendra pas d'avoir 73 ans pour accéder au trône.
Tu sais pas, papa peut vivre très vieux.
Il peut vivre 130 ans, j'en doute un peu.
Grâce à
quand même,
Elon Musk et à l'homme augmenté.
écoutez, on en parlera dans le rendez-vous tech
numéro 500. Un cerveau dans un bocal sur le trône, disant non, il est encore là, ne vous inquiétez pas.
Jusqu'à, est-ce que, mais c'est ça, est-ce que le rendez-vous tech connaîtra un autre roi ou d'Angleterre? Sans doute, peut-être pas, je ne sais pas moi quand je m'arrêterai, hein, mais il faudra que j'aille.
Il ne tient qu'à toi.
Écoute, il va y avoir un nouveau palier Patreon pour que je puisse me payer les augmentations cybernétiques d'Elon Musk au même titre que le roi d'Angleterre pour pouvoir vivre aussi longtemps. Il a un peu d'avance hein, quand même, Charles. Donc,
c'est tout ce qu'on souhaite.
Ouais. Merci à tous les deux d'avoir été là avec moi pendant cette heure et demie délicieuse. Quel bonheur de vous avoir eu. Si on veut prolonger ce plaisir, est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Elsa, honneur aux dames.
Moi, beaucoup sur lefigaro.fr, tout simplement. Et puis, sur mon compte Twitter aussi.
Elsa Bimbaron. Et le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Cédric.
@Cédric sur Twitter, toujours le même. Et puis, allez écouter le dernier épisode des Doigts dans la prise, donc Les Doigts dans la prise, mon podcast sur la voiture électrique, autonome et tout ça. On a beaucoup ri parce que c'était les vacances et donc on est allé à Clermont-Ferrand sur invité, parce qu'il y a un club des possesseurs de Tesla, je vous la fais rapide, et qui fait un événement. Alors c'est à voir, c'est un truc génial. Et ils ont fait ça, invité par Michelin sur la piste d'essai de Michelin. C'est un pur truc de R&D où normalement t'as pas le droit de mettre les pieds. Voilà, c'était très intéressant. On a parlé de pneus connectés, on a parlé de... Enfin voilà, allez écouter ça, c'était un double épisode.
Très bien.
De pneus connectés, ouais, Michelin met des puces connectées dans ses pneus, vous pourrez découvrir pourquoi.
Les doigts dans la prise, super. Merci beaucoup Cédric. Et pour ma part, c'est Note Patrick, partout où je suis, Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez aussi sur notepatrick.com tous les liens vers tout ce que je fais. Compte Twitch où on stream tous les mardis midi le rendez-vous tech, tous les jeudis midi le rendez-vous jeu. Vous avez aussi le lien vers le Discord où il y a plein de gens super sympas. C'est vraiment mon endroit préféré d'Internet, hein, le Discord des émissions avec des gens super cool qui parlent de tech, de gaming, mais pas que. On parle de plein d'autres choses aussi. Et si vous êtes un petit peu fatigué de Twitter et du stress que ça induit, eh ben venez faire un tour sur le Discord. Le lien est d'ailleurs dans les notes de l'émission, mais aussi sur notepatrick.com. Et puis, bien sûr, pour vous abonner à Patreon et avoir les bonus, comme celui qu'on va faire sur la question du renouvellement de la tech chez les auditeurs, juste maintenant, dans l'after show, eh ben, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 2 minutes, hein, vraiment. Et en plus de tous les bonus que vous aurez mes remerciements chaleureux et sincères de me permettre de continuer à produire le rendez-vous tech. Merci à tous et à toutes, et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao !